la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Alors, je m'appelle Céline Vallot, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut Curie à Paris, qui se situe dans le 5e arrondissement, rue d'Ulm. J'ai reçu un prix de l'Académie des sciences qui s'appelle le prix de cancérologie de la Fondation Sino del Duca. Et pourquoi ? C'est pour les travaux de mon équipe sur l'hétérogénéité tumorale, comprendre les cancers, comment ils fonctionnent, et puis notamment les différentes technologies qu'on a mises en place ces dernières années. Alors le parcours pour devenir chercheur est long, comme tout le monde le sait. Donc pour moi, il a commencé assez tôt finalement. Je dirais que collège, lycée, j'étais déjà très intéressée par les sciences, les maths, la physique, plutôt des sciences dures. Et puis au cours de mes études d'ingénieur, je me suis assez vite rendu compte que voilà, le côté appliqué et rapport à la santé était très important pour moi, d'avoir vraiment ce lien direct avec la santé pouvait être particulièrement intéressante. Et donc j'ai un peu redirigé mon parcours en faisant justement un master plus appliqué en cancérologie, biologie. Pour moi, c'était complètement nouveau en sortant des maths et de la physique. Mais ça m'a fait prendre conscience que c'était là que j'avais envie d'utiliser mes compétences scientifiques au quotidien. Et donc après, j'ai poursuivi par une thèse en cancérologie à l'Institut Curie déjà. Et je me suis écartée pour mon postdoctorat où j'ai étudié le développement humain. Et puis je suis revenue pour fonder mon équipe à la cancérologie qui était vraiment mon premier amour, entre guillemets. En cours de mes études d'ingénieur, j'ai rencontré un chercheur, François Radvani, qui travaille à l'Institut Curie, qui nous a expliqué ce qu'il faisait dans son laboratoire et que lui, justement, il essayait de comprendre les tumeurs de vessie à l'époque. Ça m'a assez fascinée. Et puis après, pour des raisons plus personnelles aussi, je pensais que c'était vraiment quelque chose auquel j'avais envie de contribuer, de participer à cet effort de groupe sur comment on fait avancer la recherche contre le cancer. Donc c'est un peu une combinaison des deux qui m'a vraiment déterminée, je dirais maintenant, depuis bien longtemps, à construire mon projet de recherche sur cette voie. Donc, l'épigénétique, c'est un peu le fil rouge justement de ma carrière scientifique. C'est ce vraiment à quoi je me suis intéressée dans le cancer, dans le développement normal et puis de nouveau dans le cancer. Donc on peut considérer que c'est un petit peu l'ensemble des modifications chimiques qui vont dire à la cellule qui elle est. Parce que chaque cellule dans le corps a à peu près le même ADN, à peu de choses près, la même séquence, la même information. Mais on sait bien que toutes les cellules sont différentes dans le corps humain. Donc il est nécessaire d'aller apposer un autre type d'information, qu'on appelle justement les modifications épigénétiques, pour dire quel va être le jeu de gènes ou le jeu de gènes qui vont être exprimés dans telle ou telle cellule et ainsi déterminer ces différences par rapport aux autres. Donc c'est un petit peu comme une annotation des chapitres, comme un livre, quoi, qui va dire à l'instant T, j'ai tel chapitre activé, dans un autre contexte, ça sera tel autre jeu de chapitre, et c'est ainsi qu'on définit l'identité. Le principe, c'est que les modifications épigénétiques sont déjà impliquées dans le développement physiologique, la formation d'un organisme vivant. Mais dans le cancer, justement, ce qui est intéressant et ce qui peut être une piste thérapeutique pertinente, c'est que ces modifications étaient montrées comme étant utilisées par la cellule tumorale pour rapidement changer son identité, par exemple, et ou développer des propriétés qu'elle n'avait pas précédemment, et notamment pour résister à tel ou tel traitement. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces modifications sont réversibles, contrairement aux mutations de l'ADN, qui, une fois qu'elles sont acquises, malheureusement, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. À un instant donné, il y a beaucoup de cellules qui possèdent à la fois les outils pour écrire ces modifications, mais les enlever. Donc un des enjeux vraiment excitants en cancérologie et prometteurs aujourd'hui, c'est d'aller comprendre comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces outils que la cellule a finalement pour enlever ou mettre ces modifications, pour essayer de la réorienter là où on veut qu'elle aille, et la mettre, la contraindre à avoir un jeu de modifications données, à une identité donnée qui la rendrait soit sensible à un traitement, ou la contraindre vraiment à être la cellule qu'on veut qu'elle soit pour qu'elle puisse être sensible par exemple aux thérapies. On est capable aujourd'hui, je vais expliquer comment, d'aller dire dans une cellule individuelle les modifications chimiques et épigénétiques dont je viens de parler, où est-ce qu'elles se situent justement sur la séquence d'ADN, à quel endroit, sur quel gène. Et jusqu'à il y a quelques années, c'était possible de faire ça sur un ensemble de cellules, une tumeur en général, donc on avait une appréciation moyenne en fait, de ce qui se passait, donc une carte un petit peu vraiment moyennée, donc qui combinait plusieurs cartes mélangées, si on peut dire. Et aujourd'hui, grâce à des approches de physique et de microfluidique, on est capable d'aller isoler ces cartes cellule par cellule. Et donc d'aller dans une tumeur, par exemple, dresser la carte des cellules tumorales et des différentes cellules qui sont là, des cellules du micro-environnement. Et ça nous, vraiment, on change de niveau de granularité d'appréciation. Quoi. On démêle un peu la pelote de quelque chose qu'on avait l'impression de voir, mais qu'on ne comprenait pas vraiment. Et maintenant, on est capable de dresser ces cartes. Et donc quand on parle de microfluidique, ça veut dire que la physique... et après 5 ans, a vraiment apporté énormément aux biologistes sur ces approches en cellule unique. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné la capacité d'aller réaliser les expériences qu'on faisait en tube à essai dans quelques microlitres. Maintenant, on est capable de les faire dans des gouttelettes qui font quelques picolitres. Et on est ainsi capable d'aller enfermer les cellules individuellement dans des gouttes et de les traiter en parallèle comme avant, on traitait un échantillon. Et donc, on est capable de paralléliser, faire beaucoup d'expériences en même temps, des milliers, sur des milliers de cellules en même temps, et ainsi garder déjà une information qui est propre à chaque cellule, mais surtout de l'obtenir très rapidement. Et donc, on a déjà, aussi grâce aux données, pu mettre en évidence, poser des hypothèses en disant on pense que dans les cellules, ce qui est en train de se passer, par exemple, d'un point de vue des modifications épigénétiques, c'est qu'elles déplacent leurs modifications à tel endroit. Et ça nous a donné envie d'essayer de l'empêcher par des composés chimiques existants. Et ça, ça a déjà montré, dans un cas précis, on a pu montrer que d'empêcher ces cellules de changer leur costume épigénétique, ça les empêchait de tolérer la chimiothérapie, par exemple. Donc c'est très prometteur, ça intéresse les oncologues. Maintenant, il va falloir mettre ça en pratique et dire comment est-ce que, dans un essai clinique, chez des patients, on peut faire ça. Donc il y a un deuxième travail qui va être de rendre ça pratiquement possible. Donc ça va être améliorer les composés chimiques existants pour qu'ils soient bien tolérés et tout ça, et de décider ensemble sur quelle cohorte de patients c'est le plus pertinent. Donc on a fait la première partie du travail, il nous reste beaucoup de choses à faire encore. La production des données, elle est très pluridisciplinaire, elle nécessite déjà des médecins, des chirurgiens qui vont, et les patients aussi qui nous donnent leurs échantillons, c'est la première chose. Ensuite, il y a des physiciens qui vont être capables d'aller enfermer ces échantillons dans des gouttes, les biologistes qui vont faire toutes les réactions avant, après et donc produire aussi les données. Et une fois qu'on a ces gouttes et qu'on a accumulé ces données qu'on lit par séquençage, en fait, ces données sont assez volumineuses, c'est-à-dire qu'on estime à peu près à 200 gigas de données par patient. Parce qu'on a des milliers de cellules. Donc vient le moment où il va falloir un petit peu chercher l'information biologique pertinente dans ces données. Et là, on appelle ça voilà, l'analyse de données vraiment pure et simple. Donc c'est des sciences des données, exactement. Et donc on a au laboratoire à la fois des gens qui sont capables de manipuler ces données de grand volume et aussi d'aller chercher la petite aiguille dans la botte de foin par des données de sciences des données assez traditionnelles qui sont déjà présentes dans d'autres domaines comme l'imagerie, la banque, enfin je veux dire, c'est vraiment, on en vient là. Et on va chercher, visualiser ces données et trouver l'information qui nous paraît pertinente. Je pense que c'est important de rappeler au niveau de l'équipe. Moi, là, ça fait 5 ans maintenant que j'ai monté l'équipe. Je suis assez fascinée par la motivation des gens qui travaillent dans mon équipe. Ça, c'est une satisfaction que je n'avais pas anticipée. Avant, je faisais mes projets en collaboration, équipe. Et puis maintenant, d'encadrer une équipe, c'est un petit peu une étape nouvelle. Mais c'est vrai de voir des personnes travailler ensemble, réussir, découvrir des choses. Voilà, c'est une satisfaction qui est quand même assez incroyable. On est à peu près une dizaine de personnes dans l'équipe de recherche. Puis il y a aussi une plateforme à l'Institut Curie maintenant qui est dédiée aux analyses en cellules uniques. Il compte presque une petite dizaine de personnes également. Et en effet, c'est un travail très organisé parce que chacun doit se donner la main et au suivant pour pouvoir arriver à la fin à des données de qualité intelligibles. Donc il y a une espèce quand même de rigueur, d'organisation qui est et qui repose, je dirais, principalement sur la communication, quoi. C'est d'être sûr que la personne d'avant et celle d'après est prête à recevoir un petit peu l'échantillon et ou à le préparer, que la personne qui analyse les données a bien compris ce qu'il y avait dans l'échantillon aussi, sinon on n'arrive nulle part. Donc oui, il y a une espèce de roue qui tourne, et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que d'un point de vue développement technologique, c'est-à-dire quand on fait des choses nouvelles, là ça devient assez fascinant, c'est que c'est une équipe du coup qui tourne, c'est-à-dire chacun se passe l'information, et puis une fois qu'on a fait le tour de la roue, qu'on a mis au point des nouvelles choses, le biologiste comprend à quel point ça a marché, pas marché, le bioinformaticien se dit « ah ben oui, ben, je t'ai aidé à comprendre ça », puis on réoptimise. Et donc on arrive, je trouve, assez rapidement, grâce à cette interdisciplinarité, à faire des sauts technologiques qui sont souvent assez excitants quand même. C'est vrai que j'ai essayé pendant ma thèse, pendant mon post-doctorat, de profiter en fait de ma formation vraiment en maths, physique et même en informatique pour essayer de garder toujours ce côté-là. C'est-à-dire j'ai plutôt appris la biologie, les expériences à la paillasse et j'ai produit mes propres données, mais après j'ai essayé de les analyser moi-même. Donc j'ai essayé de cultiver cette dualité parce que là, pour aujourd'hui encadrer une équipe qui est moitié-moitié ou un tiers-deux-tiers en termes de compétences biologie expérimentale et computationnelle, je ne voyais pas ça autrement que de savoir le faire moi-même initialement, quoi. Souvent, on a tendance à cloisonner quoi, les enseignements, aussi parce que on doit devenir tellement spécialiste d'un domaine que si on veut vraiment l'apprendre complètement, je comprends très bien qu'on ne peut pas tout apprendre, quoi. Donc c'est plutôt, je dirais, dans l'attitude scientifique, c'est la démarche scientifique qui doit être pluridisciplinaire. Je ne demande pas à tout le monde dans mon laboratoire d'être spécialiste de tout, c'est impossible. Même moi, il y a des choses sur lesquelles je deviens moins spécialiste qu'avant et c'est comme ça. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'attitude, l'ouverture pour avoir le langage un petit peu de l'autre, quoi. Donc ça, moi, c'est le minimum vital que je demande pour survivre dans un environnement pluridisciplinaire, c'est que chacun ait à minima la culture et les mots. Et donc ça peut être comme des mots assez techniques, pour discuter avec l'autre et être sûr qu'on se comprend, quoi. De toute façon, les élèves sont conscients de ça. Dès qu'ils font des stages, ils viennent, ils se rendent compte à quel point il est important de pouvoir parler à tout le monde. Donc j'espère que ça va s'augmenter au fil de l'eau. Mais c'est sûr que la science des données, c'est un bon exemple, que c'est complètement entré en biologie et qu'il va falloir qu'on s'active un petit peu au niveau formation. Clairement, là, quand j'ai commencé mon équipe, on était en train de finir une phase... Les chercheurs sur vraiment beaucoup de succès sur les thérapies dites ciblées, c'est-à-dire on a été au-delà des traitements chimiothérapie, radiothérapie, pour découvrir des thérapies beaucoup plus spécifiques des cellules tumorales qu'on avait en face de nous. Là, on est en train d'entrer dans une ère plus personnalisée et presque, vous l'avez peut-être vu, cellulaire, c'est-à-dire je vais pouvoir vous dire quelle est la carte cellulaire de vos tumeurs, qui vous êtes, et donner des traitements combinatoires qui vont être adaptés déjà à la personne, mais au-delà de ça, adaptés à la complexité de la tumeur de cette personne. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de franchir des étapes dans le raffinement de ce qu'on est en train de proposer. Donc, je pense qu'à chacune de ces étapes, on voit qu'on gagne en guérison totale. Enfin, je veux dire, on est à plus de 50% aujourd'hui des gens qui risquent de cancer. J'espère qu'on va franchir 10% à peu près sur un rythme toujours égal. Donc, s'il me reste, 25 ans de carrière, j'espère qu'on en aura gagné encore 20% de plus et puis on va se rapprocher des 90% de guérison. J'aimerais contribuer en tout cas à comprendre si ces modifications épigénétiques où on voit cette espèce de potentiel incroyable, est-ce que vraiment elles sont une cible thérapeutique pertinente, quoi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, en jouant chez des patients, est-ce qu'à la fin de ma carrière, je serai face à des cohortes de patients qui auront pris vraiment des composés épigénétiques qui changeront la réponse au traitement ? C'est déjà un peu le cas dans certaines indications, certains cancers. C'est vrai que dans les cancers du sein, par exemple, ce n'est pas encore le cas. Donc moi, j'ai un objectif, c'est de compréhension déjà. Peut-être que je pense qu'il sera peut-être plus facile à atteindre, de comprendre vraiment ce qui se passe d'un point de vue génétique à l'échelle des cellules et puis même plus largement au cours de l'évolution tumorale. Est-ce qu'on pourra mettre ça en pratique ? Je l'espère.